Bonjour, je vais donc vous parler des effets biologiques et sanitaires des champs électromagnétiques. Je vais le faire assez brièvement, bien que le sujet soit très vaste, pour laisser beaucoup de temps aux questions, à la discussion. C'est important sur ce sujet qui est souvent méconnu et souvent un peu chaud. Nous travaillons sur ce thème depuis 25 ans à l'Université Bordeaux-1. En ce moment, dans le cadre du laboratoire IMS, et nous sommes situés à l'école de chimie de Bordeaux. Et avec Isabelle Lagroy, qui était ici présente, nous animons cette équipe d'une quinzaine de personnes. Et il fallait donc choisir qui allait vous parler. On a tiré au sort et j'ai perdu. Mais j'ai perdu, mais en même temps, la discussion étant risquant d'être chaude, je l'ai compris. J'ai appliqué il y a quelques années le principe de précaution et je me suis mis à la boxe anglaise. Et je ne dirais pas que ça m'a servi souvent, mais au niveau de l'assurance face à certains débatteurs, ça m'a aidé psychologiquement au moins. Donc vous avez ici mon adresse e-mail. Sur l'écran, et vous pouvez la noter parce que je vais citer beaucoup de documents et je vais donner très peu de détails, très peu de formules, rassurez-vous. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés pourront m'écrire et je leur enverrai ces documents. Pour préparer cette réunion, j'ai lu attentivement le programme et la liste des invités, c'est-à-dire la liste de vous présents, et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de médecins du travail. Et qu'il y avait quelqu'un que choisir aussi. Donc, j'en tiens compte dans mon exposé et je parlerai probablement de thèmes qui ne sont pas sur les diapositives. Je m'arrêterai parce que j'ai envie d'ajouter certaines choses pour tenir compte du débat qui vient d'avoir lieu en particulier sur le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est un outil pour les politiques et nous sommes des chercheurs. C'est une phrase préalable pour introduire le contexte sociétal. Il a été depuis longtemps pour les lignes à haute tension, mais aussi depuis peu pour le téléphone portable. Il a été donc extrêmement peu serein. Malgré la réalité, la légitimité de la question posée et les moyens qui ont été mis en œuvre, il est sûr que ça a attiré des craintes. Et ça a provoqué des débats qui ont été parfois difficiles et la sphère politique a été très impliqués, souvent mal impliqués, mais en tout cas très impliqués. Donc là, il s'agit de la couverture de Libération de 2003, donc c'est pas nouveau. Donc le problème, la question posée sur les effets sanitaires des téléphones portables date de 1993, ça a démarré aux États-Unis. Et ce jour-là, Libération, c'était la couverture, comme vous voyez, donc c'était plus haut. La couverture était alarmiste, même si les trois pages suivantes ne l'étaient pas vraiment. Elles étaient bien faites. Mais ça fait quatre pages en tout, ce que peu d'événements du siècle ont provoqué chez Libération en termes de quantité d'informations. Et puis il y en a eu beaucoup d'autres articles, bien sûr, les médias sont friands de ce thème. Et on a ici le Wi-Fi et la santé, le Wi-Fi perd le fil, la santé perd le fil, voilà le thème possible d'un autre débat. Et on n'a jamais oublié les lignes à haute tension et toutes les sources de champs à extrêmement basse fréquence, qui, elles, quand elles sont situées, elles étaient situées, le pylône était dans l'affiche de Mitterrand. Il y avait aussi une église, dans mon souvenir, dans la deuxième affiche. Là, on a une combinaison des deux. Il manque plus que les antennes relais. Voilà, donc ça c'est le contexte sociétal. Donc l'inconvénient c'est que la recherche n'est pas sereine. L'avantage c'est qu'il y a pas mal de fonds pour la recherche qui ont été donc dévolus pour ces thèmes-là, sachant que maintenant ça s'écroule complètement. Voilà. Je ne le redirai pas en termes de conclusion, mais il est sûr que pour des raisons des bonnes et des mauvaises, comme toujours, la recherche dans ce domaine est en train de chuter en termes de quantité, mais heureusement d'augmenter en termes de qualité. Alors, donc, vous n'êtes pas tous familiers avec le spectre électromagnétique. Donc, je rappelle deux, trois choses qui vont vous permettre de suivre, parce que je ne vais prendre que les exemples ou les gammes les plus importantes. Donc, à gauche, on a le champ statique, bien sûr, 0 Hertz. Et comme j'ai une échelle log ici, il n'y a pas de 0. Mais donc, les champs statiques, les champs d'extrêmement basse fréquence, disons le secteur, les lignes à haute tension, ensuite les radiofréquences. C'est ça dont je vais vous parler, c'est 3 gammes en un seul exposé. C'est ça le problème, c'est qu'il faut, plusieurs exposés pour chacune des gammes, donc je vais vraiment simplifier. Puis ensuite, on a les infrarouges, la lumière, et puis tout ce qui est ionisant, dont les effets sont plutôt mieux connus au niveau sanitaire que les non-ionisants, qui sont plutôt nouveaux, puisque les sources sont plutôt récentes, avec en particulier les communications sans fil. Donc voilà le cadre, voilà la scène de la pièce. Alors, les sources sont extrêmement nombreuses, mais pas dans chaque gamme de fréquences. Pour les champs statiques, la principale source de champs statiques reste l'IRM, les appareillages d'IRM, dans lesquels on a 3 types de populations, les patients, les volontaires et le personnel autour et dedans éventuellement. Personnel, ça inclut pas seulement hospitaliers, mais aussi ceux qui fabriquent et testent les appareillages. Voilà, là on a une source majeure d'exposition de grande intensité pour pas mal de personnes qui passent des examens et ceux qui les aident à les passer. Voilà, ça c'est la source principale en champ statique. Dans le milieu industriel, il y en a d'autres, mais relativement peu. Dans les sources EBF, c'est le sigle en français, EBF, extrêmement basse fréquence, on a de multiples sources, mais qui ne sont pas extrêmement nombreuses, et qu'en général, on situe bien donc, les lignes haute tension, les transformateurs qui sont cachés en général dans les petites maisons ou dans les immeubles, les trains électriques, bien sûr, les vrais trains électriques, les moteurs, les gros moteurs industriels, par exemple ceux des machines à coudre dans le tiers-monde, où on fabrique nos jeans, et puis d'autres métiers, bien sûr, la soudure et autres. Voilà, ça ce sont les sources d'extrêmement basse fréquence. Mais il y a aussi tout le câblage des pièces, des maisons, des immeubles, etc., qui est moins visible que les lignes haute tension, mais qui peut, par sa proximité, provoquer des expositions relativement fortes. Enfin, il y a les radiofréquences avec les communications sans fil, les télévisions radio, donc ce qu'on appelle en jargon le broadcast, et puis les RFID, donc l'identification par radiofréquence. Voilà les grandes applications, mais il y en a encore d'autres. Il y a aussi, en milieu industriel, le chauffage, et chez vous, les fours micro-ondes, mais qui sont fermés, bien sûr. Voilà, donc ce qui caractérise les sources radiofréquences, c'est leur multiplicité et la multiplicité de types de sources. Il y en a même dont vous n'avez jamais entendu parler, qui probablement sont pourtant proches de vous. Et la croissance rapide des sources radiofréquences est très différente de celle des lignes. Par exemple, les lignes à haute tension, on n'en construit pas en France, ou très très peu. Il y en a une qui est construite en Normandie pour le nouvel EPR, mais c'est très très rare qu'on construise une ligne. Et c'est d'ailleurs de plus en plus difficile. Tandis que des téléphones, on en construit des millions. Et aujourd'hui, il y en a plus de 4 milliards dans le monde, donc la population mondiale a plus facilement accès à un téléphone portable qu'à une source d'eau. Alors, en tant que chercheur, donc je vais vous présenter les résultats en laboratoire et en épidémiologie. Je ne suis ni médecin ni épidémiologiste, mais je travaille donc depuis longtemps donc sur ces sujets avec des épidémiologistes et biologistes. Donc, ce qui caractérise l'étude des champs électromagnétiques, c'est que, à la chaîne habituelle de la connaissance qui démarre souvent de la biochimie, pour les médicaments par exemple, pharmacologie, etc., la biologie, la santé, il faut ajouter au départ la physique et la biophysique, c'est-à-dire l'interaction des champs avec la matière vivante. C'est ce qui caractérise donc cette discipline et aussi le mode d'exposition. Donc, comme pour les produits chimiques, il y a des approches complémentaires sur les cultures de cellules que l'on expose à des champs variés en laboratoire, des modèles animaux, par exemple ici pour la peau des rats sans poils. Chez l'homme, on a fait quelques études, pas toujours celles que l'on fait avec les produits chimiques, mais avec les limitations, bien sûr, éthiques de l'expérimentation humaine. Et enfin, sur les populations, vous avez là une photo qui montre que tout le monde téléphone. Voilà. Ce qui pose le problème de trouver des témoins qui ne téléphonent pas. Et ça, c'est un problème qui... si vous êtes volontaire pour ne pas téléphoner... Donc je vais balayer les trois gammes de fréquences assez rapidement pour vous donner une idée donc, des recherches en laboratoire, des mécanismes, des résultats, des conclusions. Et ensuite, je parlerai brièvement des normes. Donc pour les champs statiques, l'induction des courants dans le corps, c'est le principal mécanisme. Il n'y a pas d'effet directement magnétique des champs donc statiques sur la santé humaine ou même la biologie, parce que le corps n'est pas magnétique, tout simplement. Par contre, on peut induire des courants, et en particulier quand on bouge dans les champs. Donc, le problème actuel, et je ne le montrerai pas tout à l'heure parce que je n'aurai pas le temps, donc je le dis maintenant, c'est qu'il y a un gap entre les champs statiques et les champs EBF qui correspondent au mouvement dans les champs intenses. C'est-à-dire que quand on marche près d'un IRM, on se déplace, donc on modifie le flux du champ magnétique, surtout dans un champ non uniforme, et on induit des courants qui ont des effets, dont je parlerai tout à l'heure. Voilà, et puis il y a aussi des effets sur les charges en mouvement, mais vous savez que rien ne se déplace très vite dans le corps humain, sinon le sang, et donc les effets sont mineurs, là, même avec des champs intenses. Et les effets eux-mêmes, connus, sont vertiges, nausées, goût métallique, pour des champs intenses. Or, comme vous savez, les IRM, maintenant, vont utiliser des champs de plus en plus intenses, puisqu'on envisage de passer jusqu'à presque 12 Tesla. Et sachant que, pour ceux qui ne sont pas spécialistes, l'IRM de base, c'est 1,5 Tesla. Et au-dessus de 2 Tesla, on remarque ces effets qui sont gênants et que tout le monde n'expérimente pas, mais qu'il faut donc éviter pour certains personnels, bien sûr. Là, je ne parle pas des patients. Maintenant, les champs EBF, donc les lignes à haute tension et tout le reste. Hein. Donc là, on a directement des courants induits par le champ magnétique, qui est variable dans le temps à 50 Hz, parce que, justement, il est variable dans le temps. On n'a pas besoin de bouger pour que les courants soient induits. Et on a donc une stimulation des nerfs et des muscles éventuels, et puis des magnétophosphènes qui correspondent à des sensations visuelles que l'on a dans l'obscurité quand on est soumis à ces champs suffisamment intenses. C'est-à-dire que les champs excitent directement le processus optique. Je ne dirais pas le nerf optique, mais disons qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne connaît pas bien, qui donne cette sensation de lumière. Et enfin, le cancer, donc les résultats, c'est essentiellement le cancer. Donc, une association a été trouvée entre exposition à des champs supérieurs à 0,4 microtesla et la leucémie de l'enfant, enfin un type de leucémie. Voilà, et avec un facteur 2 d'augmentation du risque relatif. Donc ça c'est la grande, j'irais, découverte, mais ce qui manque à cette découverte, c'est la démonstration éventuelle d'un lien de causalité entre l'exposition et la maladie. Ça manque. Et nous venons de déposer hier ou avant-hier un projet européen, avec d'autres bien sûr, qui prétend étudier et élucider ce problème du mécanisme causal éventuel de l'association. Mais c'est la seule vraiment affection qui paraisse peut-être influencée. On parle d'Alzheimer maintenant, en particulier pour les personnes âgées. Donc, mais là, c'est simplement des indices qui existent et aucune recherche autre qu'épidémiologique n'a été faite et l'épidémiologie est insuffisante. Maintenant, les champs radiofréquences qui ont généré le plus d'études, on considère que sur ce thème a été dépensé 15 millions d'euros par an depuis 1993, avec une chute actuelle. Ça fait quand même beaucoup d'argent, plus que pour aucun des produits chimiques dans le passé. Donc le mécanisme, celui qui est connu, c'est l'échauffement. C'est clair, c'est le four micro-ondes. Mais il se trouve que les normes protègent évidemment de ces effets-là et que d'autre part les applications courantes, c'est-à-dire les communications sans fil, ne sont pas du tout à des niveaux thermiques, des niveaux qui provoquent ces effets-là. Donc, on peut dire que a priori, à moins de trouver des effets ou à moins de trouver d'autres mécanismes, on n'a pas trop de problèmes sanitaires en vue. Mais la recherche a été faite justement pour chercher si de tels effets non thermiques existaient. C'est toujours pareil, essayer de prouver que le risque n'existe pas ou est infime. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment le faire. Et qu'est-ce que l'on fait? On fait des expériences, et on en fait d'autres, et on les réplique, et puis un jour, on se lasse, et on passe à autre chose, à un autre paramètre biologique ou autre chose. C'est sans fin, cette recherche. Mais on peut aboutir à des conclusions raisonnables. Donc là, l'unité de physique que je définirai un peu plus loin, donc c'est le DAS en watts par kilogramme, qui permet de savoir combien d'énergie a été absorbée. Donc la conclusion actuelle, et ça je parle pas seulement en mon nom personnel, mais au nom de toute la communauté scientifique qui écrit des rapports internationaux et nationaux sur ce thème, et je donnerai une liste de ces rapports tout à l'heure. Donc ma conclusion aujourd'hui, c'est, comme je dirais porte-parole de cette communauté, c'est que pour le cancer, on a rien, et je donnerai l'exemple de l'épidémiologie tout à l'heure pour préciser. Pour le système nerveux, on a quelques indices d'un effet biologique sur l'électroencéphalogramme, sur les volontaires, mais sans effet sanitaire prévisible. Mais pour tout le reste, donc système immunitaire, peau, audition, développement, etc. Donc ça, il s'agit d'expériences sur l'homme, l'animal et la cellule. Pour ça, pour l'audition par exemple. C'était ma crainte quand on a commencé en 93, c'est de trouver les effets sur l'audition, puisque l'oreille interne est fragile et elle est située près du téléphone. Mais sur l'homme et l'animal, on ne trouve rien dans ce sens-là. Alors, pour compléter ces résultats que j'évoque très brièvement, il y a eu donc une grande étude épidémiologique, fameuse, Interphone, qui s'est terminée, la collecte des données s'est terminée à Noël 2004, et elle a été publiée en mai 2010. Donc il y a eu donc un remue-ménage sérieux avant de publier, ce qui est en soi un problème de crédibilité et de confiance. Donc 13 pays étaient impliqués avec une cinquantaine d'auteurs, 4 types de tumeurs de la tête et du cou, et en particulier les gliomes, et des diagnostics entre 2000 et 2004. Donc ça portait potentiellement sur des millions et des millions de personnes. Et le résultat, on peut, pour le résumer, on peut le montrer sur deux diapositives, deux courbes. Ici, on a le risque relatif, l'OR, en fonction du nombre cumulé d'appels. On demandait aux personnes de dire combien de fois elles avaient téléphoné dans leur vie, de leur vie téléphonique, si on peut dire. Et le résultat, comme vous le voyez pour les gliomes et méningiomes, est que les points se trouvent au-dessous de l'unité, ce qui en soi est plutôt rassurant, mais qui est un peu curieux, parce qu'on se demande pourquoi c'est systématiquement inférieur à 1. Et puis, pour le temps cumulé d'appels, qui n'est pas la même chose, ce n'est pas le nombre d'appels, mais le temps cumulé d'appels, on a la même situation, sauf pour une tranche de gens très exposés. Très exposé, ça veut dire plus d'une demi-heure par jour, tous les jours, week-end compris, pendant des années. Ce qui, à l'époque de l'étude, coûtait cher à l'utilisateur, je veux dire, pas à l'épidémiologiste. Donc, maintenant, ça serait un peu moins vrai. Mais, donc là, il y a une sorte d'anomalie, parce que, à la fois, on se demande comment les gens pouvaient téléphoner autant, et on voit dans les études actuelles d'analyse de l'exposition que c'est très rare de trouver des gens qui téléphonent plus de 20 minutes par jour, donc à ce rythme-là. Et puis d'autre part, vous voyez qu'il n'y a pas une tendance à l'augmentation. Bon, bref, encore une fois, je ne suis pas épidémiologiste, mais mes collègues qui sont signataires de l'étude expliquent qu'il y a peut-être quelque chose pour les gros utilisateurs, mais que pour le reste de la population, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, mais on manque de recul, puisque certaines de ces affections, bien sûr, ont des temps de latence importants. Mais ce que l'on cherchait, ce n'était pas à savoir si les téléphones provoquaient le cancer de la tête, mais savoir s'il y avait une augmentation de l'incidence, une accélération. Maintenant, je cite brièvement les rapports d'experts sérieux, pas les experts sérieux, mais les rapports sérieux d'experts, qui sont publiés dans les trois gammes de fréquences. Donc, typiquement, ce sont les documents que vous pouvez me demander. Ils existent tous en version électronique, donc ça ne coûtera pas beaucoup de timbres. Voilà, donc pour les statiques, il y a des documents qui existent, soit de l'ICNIR, donc l'ICNIR, j'en parle brièvement, il s'agit en français de la Commission internationale de radioprotection contre les non-ionisants, c'est une commission de 14 membres, élu, dont je fais partie, qui définit les recommandations de limites d'exposition pour le monde entier. Et les normes de l'ICNIRP ont été donc accueillies, acceptées, adoptées par au moins une cinquantaine de pays, la plupart des pays du monde, sauf les États-Unis, bien sûr, et qui donc sont plus ou moins en termes de réglementation, ont été plus ou moins, donc, comme on dit, implémentés. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'adopter des recommandations, ensuite il faut les mettre en pratique, bien sûr. Voilà, donc l'ICNIRP a publié un livre bleu, pas blanc mais bleu, sur les champs statiques, c'est-à-dire 3 ans de travail pour collecter toute l'information jusqu'à 2030. Et puis l'OMS a édite des monographies sur certains sujets, donc elle en a une aussi sur les champs statiques. Pour les champs extrêmement basse fréquence, il y en a un peu plus, parce que c'est plus complexe. En particulier en français, le rapport à la DGS de 2004. Donc nous étions... Alors tout ce qui est en gras, ce sont les rapports dans lesquels nous étions experts dans ces groupes. La DGS, c'est donc le document français de référence qui date un tout petit peu. Et en anglais, on en a plus, bien sûr, et il y en a d'autres à venir, mais de moins en moins. Et alors pour les radiofréquences, et bien là, il y en a encore plus, bien sûr, à cause de l'urgence et des enjeux. En français, vous avez le rapport d'Ismirou, qui avait été commandité par la DGS. Donc William Dab nous servait de cornac, disons. Et il avait réussi un tour de force à nous faire accepter de mettre dans notre rapport un tout petit peu de gestion du risque. Je le regrette, mais c'est comme ça. Et donc on a appris là donc le risque qu'il y avait, je dis ensemble, on a appris ensemble le risque qu'il y avait à mélanger l'évaluation du risque et la gestion du risque dans un rapport de chercheurs. Quand on associe d'autres personnes, c'est possible, mais là, bon, il aura peut-être une question à ce sujet tout à l'heure. Mais donc on appelle le rapport Smirou, du nom de Denis Smirou, de celui qui dirigeait ce groupe. Et ensuite, il y en a eu d'autres par l'OPEXT, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, de l'AFSET, qui maintenant n'existe plus, qui est l'ANSES, etc. Et en anglais, il y en a beaucoup d'autres que vous voyez ici. Des rapports de l'ICNIRP, le livre bleu de l'ICNIRP, etc. Donc tout ça c'est disponible et l'OMS va imprimer sa monographie dans un an environ et le CIRC donc va classer les champs radiofréquences en tant que carcinogènes éventuels au mois de mai prochain. Donc c'est un rapport, c'est une sorte de rapport, c'est une monographie qui sortira l'année suivante, mais on aura la réponse au mois de mai. Voilà. Donc, si vous voulez de l'information sérieuse, vous l'avez là. Vous l'avez aussi ailleurs, bien sûr, mais vous l'avez là. Par contre, si vous tapez sur Internet au hasard, vous risquez de tomber sur de la désinformation sérieuse. Donc, il faut choisir. Voilà. Donc, je vous parle ensuite des normes et valeurs limites, parce que la situation est un peu différente des produits chimiques, par exemple, des doses, etc. Donc, je vais prendre l'exemple des radiofréquences, parce que c'est le sujet le plus d'actualité et que je ne peux pas recommencer le même discours avec différentes valeurs pour les deux autres gammes de fréquences. Donc, la grandeur physique, je l'ai déjà dit, c'est la puissance absorbée par unité de masse de tissu. Donc, je donne un exemple. 1 kg de poulet dans un four de 1000 watts, le DAS, c'est 1000 watts par kilogramme. Et ça, vous en connaissez les effets. C'est-à-dire, si le poulet est préparé comme sur la photo, il sera cuit. S'il est vivant, il sera mort et cuit. Donc là, on a vraiment un exemple clair d'effet biologique, sanitaire, moins pour le poulet. La chance qu'on a, c'est qu'on ne tient pas dans un four micro-ondes. Donc ça, c'est l'effet thermique. Mais retenez cette valeur de 1000 watts par kilogramme. Ça fait du dégât, bien sûr. Maintenant, dans notre jargon de l'ICNIRP, on définit la restriction de base, c'est-à-dire la valeur interne à l'organisme qu'il ne faut pas dépasser pour prévenir les effets sanitaires. Donc pour ça, on fait la liste des effets sanitaires connus, et c'est une veille scientifique absolument constante. Ensuite, on définit l'effet critique, c'est-à-dire celui qui se produit au niveau de DAS le plus bas, 4 watts par kilogramme. Rappelez-vous, 1000 watts dans le four par kilogramme, et là 4 watts par kilogramme. Ensuite, on divise par 10 c'est un coefficient d'incertitude, non pas de sécurité, mais d'incertitude. Et on divise pour les travailleurs, et ensuite on divise par 5 pour le grand public, pour le public, et on obtient une valeur clé qui est la référence de base, donc en radiofréquence. Il ne faut pas laisser s'installer une absorption radiofréquence supérieure à cette valeur. On veut rester dans les clous, dans le vert. Et ce principe est le même pour les autres gammes de fréquences, mais je donne simplement cet exemple-là. Alors, la restriction de base, elle va rentrer dans la loi, éventuellement, dans notre recommandation et dans la loi. Maintenant, il faut la faire appliquer. Pour savoir si à cet instant, vous dépassez 0,08 watts par kilogramme dans votre organisme, je ne vais pas descendre, aller vous ouvrir le ventre et me faire une mesure. D'abord parce que c'est invasif, et puis aussi parce que la mesure serait faussée par l'ouverture. Vous voyez qu'on ne peut pas mesurer directement. Sur un fantôme, on peut, surtout un fantôme numérique. On tape sur le clavier et ça fait de mal à personne. Mais il faut savoir comment vérifier que cette restriction de base n'est pas dépassée dans la vie réelle. Et pour ça, on fait des mesures de champ en absence de la personne, typiquement le travail de l'INRS, etc. Et on peut déduire que la restriction de base n'est pas dépassée. Maintenant, quels sont les niveaux d'exposition? Parce que tout ça, ce sont des normes. Les normes sont indépendantes de la politique, de l'économie et des applications. Voilà, je le dis clairement, je suis sûr que ça va générer des questions, mais je le dis quand même clairement. C'est indépendant de la politique, économie et en principe. Voilà. Enfin, pour l'ICNEP en tout cas. Maintenant, les applications que vous connaissez, antennes relais Wi-Fi, qu'est-ce qu'elles donnent comme niveau par rapport au niveau de référence que j'ai donné? Là, vous avez un graphe typique qui montre le GSM, c'est-à-dire la 2G, l'UMTS, c'est-à-dire la 3G et le Wi-Fi, dans un environnement banal. Donc, hors téléphone, là, ce n'est pas les téléphones, il n'y a pas de téléphone. Là, c'est les stations de base, donc antennes relais et bornes Wi-Fi. Et on voit que, si je traduis ces chiffres ici, on voit que je commence par le bas. Hein. Pour les antennes relais et le Wi-Fi, le GSM et les antennes GSM sont en général 10 000 fois au-dessous des valeurs limites des normes. Typiquement dans cette pièce, c'est ce que vous avez. L'UMTS 3G et Wi-Fi, c'est 10 000 à 100 000, plus bas encore. Et une comparaison que je prends parfois, c'est qu'une antenne relais correspond en termes d'énergie émise, ou plutôt reçue par la personne qui est en face, au maximum de puissance, c'est-à-dire à 300 mètres à peu près, à 50 microwatts par mètre carré. Alors, retenez pas forcément l'unité, mais le nombre 50. Le soleil, par un bon jour ensoleillé, c'est 1 milliard de microwatts par mètre carré. Donc on n'est pas dans la même équipe de foot, comme on dit. Hein. C'est-à-dire que là, on sait les effets des UV et de la lumière bleue sont autrement dangereux. Et là, on parle de risque, pas de danger, puisque c'est l'exposition. Maintenant, je remonte en haut. Le GSM, lui, il est environ à 10 fois au-dessous des normes, donc relativement près, quand vous téléphonez, contre la tête, bien sûr, hein, en le posant contre la tête, sans lien radio. Celui que vous avez à la maison, le DECT, donc qui travaille sur le même principe, c'est 100 fois, et le 3G, c'est 1000 fois au-dessous des normes, c'est-à-dire 100 fois au-dessous des GSM. Voilà donc les niveaux d'exposition. Donc, les normes d'exposition sont exprimées en restriction de base et en niveau de référence, qui sont, j'en donne un exemple que je ne commenterai pas sur le graphe, ce sont les valeurs qu'on mesure à l'extérieur pour savoir si la norme est respectée. Donc, les normes statiques ont été publiées en 2009 par l'ICNIR. Pour les ELF, en anglais ELF, en français EBF, donc en 2010, c'est-à-dire il y a quelques jours, les normes EBF existent. Voilà. Et puis, les radiofréquences, donc, en 98. Et elles sont en cours de révision, elles seront publiées, la nouvelle version, bientôt. Et là, l'Europe a promulgué les normes ICNIR comme recommandation pour le public et les travailleurs. Et maintenant, va sortir en 2012 une directive travailleur qui s'appliquera donc aux tous les travailleurs en Europe dans toutes les gammes de fréquences que j'ai citées. Et elle est en gestation et c'est un peu compliqué. Un peu compliqué à mettre en place. En avril 2012, il y aura donc une directive. Conclusion. Donc, quelques mots de conclusion par gamme de fréquence. Donc, en statique, on a des expositions rares, surtout les personnels IRM, problèmes mineurs, enfin mineurs, je veux dire, c'est le problème de gêne plus que de santé mentale. Et cette gamme n'est pas encore prise en compte par la directive travailleurs, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être mise en place, mais c'est difficile à cause de la pression des médecins et des industriels de l'IRM qui trouveraient dommage que le développement de cette technologie pour la santé, qui est très européenne, disons, dans le monde, soit freinée par des normes inadaptées à la santé. Et là, on parle des personnels, pas des patients, encore une fois. Donc là, il y a tout un débat qui a lieu en ce moment depuis quelques années. Pour les EBF, l'exposition est ubiquitaire dans un environnement non désertique, disons. Elle est à faible niveau. Il est rare qu'on soit au-dessus du niveau de 0,4 microtesla où il y a peut-être une association réelle avec la leucémie. Et les EBF sont inclus dans la directive travailleurs parce que ce sont des champs présents dans les milieux de travail, bien sûr. Les RF, on a eu exposition dans nos pays au moins qui est ubiquitaire. Vous savez que dans beaucoup de pays en développement, les téléphones portables sont les seuls téléphones disponibles. Donc, c'est pratiquement à l'échelle mondiale, mais dans nos pays, on a en plus des sources comme le Wi-Fi et autres qui sont très présentes. Seul l'effet thermique est établi comme mécanisme, disons, et donc il n'est pas pertinent pour les applications courantes. Aucun effet sanitaire a été bien établi à bas niveau, et je dis établi, ça veut dire vraiment bien consolidé, qu'on sache que l'effet est réel. C'est inclus dans la directive travailleurs et les normes sont en révision. Donc là, je rajoute un sous-chapitre que je n'avais pas en tête de vous raconter. C'est le cas des électro-hypersensibles à l'électricité. Donc en bref, EHS. Donc ce sont des personnes qui ont des symptômes subjectifs, donc qu'ils rapportent quand ils sont exposés à des champs électromagnétiques variés. Ça va de... Alors, rarement pour le statique, mais les EBF, les radiofréquences, donc toutes les sources, ordinateurs, téléphones, etc. Voilà, donc ces gens-là souffrent, ils ont des maux, ils les rapportent, on peut difficilement prouver que la réalité directe de leurs maux, mais on les croit, disons, sur parole. Par contre, eux attribuent ces maux à l'exposition aux champs électromagnétiques, et les études faites de provocation double aveugle, jusqu'à présent, il y en a eu beaucoup, montre que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre l'exposition et les symptômes. Voilà, donc ça fait débat. Dans certains pays surtout, dans d'autres, pas du tout. Il n'y en a aucun. Dans certains pays, il y en a 2-3% de la population. C'est très variable et on sent que ce n'est pas entièrement sanitaire et scientifique. Donc le débat qui est autour d'eux. Mais c'est quelque chose à prendre en compte absolument. Voilà donc ce que je voulais vous dire.
J'ai deux questions, enfin pas des questions, des remarques. Je voulais un avis. J'avais lu il y a quelques temps, j'ai lu il y a quelques années, que dans l'industrie de guerre américaine, on développait l'utilisation de champs de très basse fréquence pour mettre hors de combat. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Oui, mais à ma connaissance, ça n'a pas eu beaucoup de suite parce qu'il s'agit. Alors, il y avait deux choses qui étaient explorées, les champs, comme vous dites, et aussi les infrasons.
Les infrasons.
Oui, mais les infrasons ne sont pas des champs électromagnétiques, mais sont des ondes de pression. Mais il y avait aussi envisagé d'utiliser des champs électriques, magnétiques à très basse fréquence, ce qui, eux, ont été utilisés pour la communication avec les sous-marins en plongée. Mais pour ce qui est des infrasons, donc, ça sort du sujet, là.
Oui, tout à fait. Hein, d'accord, donc, c'est dans le même groupe d'armes spéciales.
Oui, c'est ça, c'est dans le même groupe, mais moi je ne suis pas compétent sur les infrasons. J'en parlais hier, avant-hier, avec des personnes qui m'expliquaient le problème que ça posait dans les boîtes de nuit. Hein, puisqu'on les installe, ça fait vibrer les organes, ça fait danser, mais ça peut aussi faire des dommages. Mais ça, c'est pas, je ne suis pas du tout compétent pour ça.
J'en ai une autre. Est-ce que il n'y a pas une éventualité possible, étant donné l'extrême succès des téléphones portables dans les couches jeunes à tous les âges, en commençant très petit, très jeune, et des effets spécifiques sur les jeunes, les tissus en développement. Est-ce qu'il y a quelque chose de fait là-dessus?
Oui, alors ça c'est une très bonne question. Il y a en ce moment deux voies majeures qui sont explorées. C'est l'effet éventuel sur les enfants, s'ils sont plus sensibles, Et puis l'autre, donc je cite mais que je ne vais pas développer, c'est l'accumulation de différentes sources, de différentes expositions sur de l'organisme. Donc, c'est-à-dire c'est cet effet à long terme, à bas niveau, à cause de multiples sources. Voilà, ce sont les deux. Je ne dis pas que ce sont des grands sujets scientifiques, mais ce sont de grandes craintes et donc qu'il faut traiter. Donc pour les enfants, on est un peu dans l'inconnu, puisque aucune pratiquement étude n'a été faite directement sur les enfants, très très peu. Et puis sur les jeunes animaux, les études ont commencé il y a environ 3 ans, à plus grande échelle, et on attend donc les résultats. Et en épidémiologie, on est à la fin d'une première étude qui s'appelle Céphalo, qui va fournir ses résultats bientôt, et une autre qui a commencé, qui s'appelle Moby Kids, qui va donc rechercher donc l'association éventuelle avec certains paramètres pour certaines tranches d'âge, etc. Donc voilà ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on est dans l'incertitude, dans la mesure où la recherche n'a pas été faite. Donc l'estimation, la modélisation est quasi impossible. C'est-à-dire l'extrapolation de l'adulte à l'enfant est très très difficile. Et puis aussi, on fait moins facilement des expérimentations sur les enfants que sur les adultes. Mais par contre, pour les jeunes animaux, c'est possible. Dans notre laboratoire, nous en faisons depuis 2 ans et demi, 3 ans. Voilà, donc on n'a pas la réponse. Mais ce n'est pas parce qu'on a la réponse que c'est dangereux. C'est-à-dire qu'il faut le savoir. Il faut savoir s'il y a une différence de sensibilité. C'est-à-dire que si jusqu'à présent c'est négatif pour les adultes, est-ce que c'est vrai pour les enfants? Je ne peux pas vous donner la réponse. Mais ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure en épidémiologie, c'est que les études cas témoins sont pratiquement terminées, pour le cancer en tout cas, mais par contre des études de cohorte ont démarré depuis 2 ans environ, des études, une grande étude s'appelle Cosmos, qui rassemble 250 000 cas, enfin pas cas mais personnes, et qui va durer donc longtemps et qui permettra de suivre donc ce sujet-là dans les années à venir, pour les téléphones, mais pas pour les maladies rares qui ont été donc examinées dans Interphone.
Que pensez-vous d'une éventuelle fragilisation des barrières méningées encéphaliques, justement qui permettrait le passage, ça ne serait pas une action directe, mais qui permettrait le passage plus facile des substances toxiques, donc ça ferait quand même une conséquence indirecte.
Oui, donc vous posez la question de la perméabilisation éventuelle sous l'effet des ondes de la BHE, pour faire quoi? Donc c'est une très bonne question et elle a été traitée largement donc dans la recherche mondiale depuis une bonne dizaine d'années et les études ont été très nombreuses et nous en avons réalisé disons 3 séries en tout cas, une avec le gouvernement allemand, une à l'international et une au niveau français, et nos résultats et ceux des autres équipes sont négatifs. C'est-à-dire qu'on ne voit pas d'effet sur la BHE, même à des niveaux élevés, c'est-à-dire 4 watts par kilogramme, qui, comme j'ai dit, c'est l'effet critique, on ne voit pas d'effet sur la perméabilisation de la BHE. Et ça, c'est donc une conclusion générale à l'échelle mondiale qui n'est pratiquement plus remise en cause, et en ce sens-là, il n'y a plus de projet sur ce thème en cours, à ma connaissance.
Merci, monsieur.